assez ensoleillé l'après-midi.
Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, votre cuisine abrite désormais un organistrum que vous avez construit grâce au conseil dispensé lors de l'atelier de musique ancienne qui a eu lieu à Gruyère en août passé. C'est bien. Aujourd'hui, il sera question de chant médiéval, enseigné par la grande Brigitte Laine, et grâce à David Mestri, soyez les bienvenus. Musique en mémoire. Vous chantiez cet été, j'en suis fort aise, mais maintenant que la bise est venue, bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Il s'agit encore d'en parler. L'atelier de musique ancienne de Gruyère, tel qu'il a eu lieu en août passé, hein, 7e atelier, avec un sous-titre, qu'on vous doit je crois, la musique des troubadoubadours.
Troubadoubadour, oui, à la Shabadabada ou Yabadabadou, comme vous le préférez, Jean-Luc.
Oui, oui, oui.
Avec ces chants ici d'une des classes qui va à Gruyère pour sa course d'école, c'est un lieu rêvé. Et nous y allons donc avec musique en mémoire.
Un classique, franchement.
Et nous y sommes avec 17 participants d'un cours de chant sur l'art des troubadours. C'est Brigitte Laine qui le donnait avec sa harpe, avec quelques cloches aussi qu'on entendra au gré de cette classe. Donc voici les meilleurs morceaux.
Donc c'est Conan Béthune. C'est cette feuille-là, tant et amée. Vous l'avez ?
Mm-hmm.
Alors, donc Conan de Béthune, il est né à Béthune, comme son nom l'indique. Mm-hmm. Il est né au milieu du XIIe siècle et il est mort en 1221 ou 1222. C'est entre 21 et 22. Il était apparenté aux maisons de Hainaut et de Flandre et il a fréquenté les cours de France. Et c'est de lui dont on... Enfin, lui-même raconte l'anecdote qu'une fois, il a chanté une de ses chansons à la cour de France et qu'on s'est moqué de lui à cause de son accent et de ses tournures artésiennes. Donc, il était très vexé. Et donc, vous voyez qu'il y avait des... Il y avait vraiment des différences de parler très, très importantes. Et ça, c'est une anecdote quand même assez intéressante. À la cour de France, déjà, on se moquait de l'accent de certaines autres régions, quoi. Donc, de tout temps, les choses sont comme ça. On en parlait hier. On se moque des accents. Enfin, bon. Donc, il a participé à la 4e croisade. Et oui, il a joué aussi un rôle politique. Il est allé jusqu'à Constantinople, en fait, avec Baudouin, un comte de Flandre. Et il a joué aussi un rôle politique important. Et donc, il fait plutôt partie de la première génération de trouvères avec Blondel de Nesle, dont on parlera juste après, parce que la chanson « L'amour dont suis épris » justement a conduit à trois voix sur le même thème. Alors on ne sait pas encore une fois de qui, si c'est Blondel de Nesle qui a inspiré La naissance du conduit ou l'inverse. Donc il fait partie de cette première génération avec Blondel de Nesle, Gaz Brûlé ou Le Châtelain de Coucy par exemple. Hein. Et il a laissé une dizaine de chansons. Alors Conan de Béthune, donc là la chanson que je vous ai choisie c'est une chanson d'amour. Bon, au niveau de la structure, vous voyez que c'est très simple. Vous avez à nouveau la même phrase mélodique qui est répétée deux fois. Hein. Là, le musicologue vous a mis des petits numéros. Hein. Vous avez 1 et 2 pour A et B. Hein. Et vous voyez le même motif musical la deuxième fois, identique. Et après, une deuxième partie, hein, grand X, comme on a déterminé les jours précédents, avec un nouveau thème musical. Alors, quel est le mode, là, que vous voyez écrit ? C'est en quel mode ? C'est un mode de sol, hein. Donc on est d'accord, c'est un mode de sol. Et comme appui, il prend la note sous la finale, le fa, la sous-tonique. Et puis vous avez la deuxième partie, donc la troisième et les troisième et quatrième phrases. Vous voyez que là, il descend à la quarte inférieure. Ça, c'est aussi très fréquent dans les chansons d'avoir une pause à la quarte inférieure de la finale du mode. Et donc on a une couleur là, un petit peu de mode doré, le temps de cette phrase là. Avant de remonter au sol pour la suite. Alors là, ce qui est très intéressant à constater, c'est que dans les deux manuscrits du bas, le chansonnier de Noailles et le manuscrit du roi, c'est écrit, très bien, mode de sol, avec le fa bécard en dessous. Et vous avez au-dessus, le manuscrit de Cangé. Là, il vous l'a écrit toujours dans la même clé pour vous faire la comparaison, mais vous voyez qu'il y a une altération à la clé. Il y a un fa dièse, c'est-à-dire que la sous-tonique, elle est au demi-ton. Donc ça change complètement la couleur modale. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que Van der Werf, là, il l'a écrit pour la comparaison en sol, mais dans le manuscrit, elle est écrite en do. C'est ça dont je parlais un petit peu hier, très vite, mais c'était un peu compliqué enfin, ça, on était encore avec les troubadours. Mais vous voyez que la notion de modalité, elle évolue terriblement. Et là, une chanson qui a été écoutée plusieurs fois par des scribes en mode de sol avec le fa bec en dessous, eh bien, il a fallu une fois aussi qu'un scribe l'entende en mode, donc l'équivalent d'un mode de fa, hein, avec un demi-ton sous la finale. Et c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment en comparant les manuscrits. En fait, la couleur modale donc change complètement. Si on chante, comme par exemple le chansonnier de Noailles, « Tante ame cor me convient haïr, et si ne quiere mes amer. » Très bien. Maintenant, la version du manuscrit du roi, juste au-dessus, « Tante ame cor me convient haïr, et si ne quiere mes amer. » Bon, c'est presque pareil, une toute petite variante. Mais si on chante la version du manuscrit de Cangé, Tante ame cor me convient haïr, et si ne quiere mes amer. Vous voyez que ce fa dièse, il chante tout le caractère de la chanson. C'est incroyable, on a l'impression d'entendre une autre chanson, quoi. Et ça, bon, voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent, de voir que cette sous-tonique peut passer d'un ton plein à un demi-ton. Alors ici, ça lui change rien, c'était écrit en do, donc si vous faites do, ré, mi, fa, sol, ça va pas plus haut. Si, ça va au la, une fois. Non, même pas, ça va pas au-delà du ré. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, ré, sol, la, si, do, ré. Ça change rien, qu'on écrive en do ou en sol. Par contre, ce qui change, c'est la sous-tonique. Sol, fa ou sol, fa, sol. Alors,
on considère que c'est une variation parce qu'en fait c'est le même texte et qu'il y a la thèse du thème qui est un peu semblable. Mais sinon, en fait, c'est presque une nouvelle composition.
C'est presque une nouvelle. Moi, c'est genre. Pour moi, c'est presque une autre chanson. Mais ça vous prouve à quel point. On en parlait un petit peu hier. C'était d'une tradition orale, ces chants, autant les troubadours que les trouvères. C'est une chance que. À un moment donné de l'histoire, il y a eu un personnage qui commande un chansonnier avec un ensemble de chansons qui soient donc écrites. S'il n'y avait pas eu cette opportunité, on n'aurait plus rien du tout. Mais cette commande de chansons, ça veut dire le scribe, il entend un chanteur qui chante cette chanson à sa façon. Un chanteur, il a pu lui-même l'apprendre de mémoire d'un autre chanteur quelques années auparavant. Forcément, il va changer une note ou deux notes. Soit parce que sa mémoire lui fait défaut, soit parce qu'il préfère, au niveau des ornements, quelque chose d'un petit peu différent. Donc il y a ça, il y a déjà la volonté de l'interprète qui a pu changer. Et après ça, il y a le scribe lui-même. Le scribe, pour écrire, certainement, ils écrivaient un premier jet sur des tablettes de cire, comme on faisait toujours à l'époque, parce que écrire sur le parchemin, c'était déjà la fin. On peut gratter, mais on ne peut pas faire beaucoup de changements. Hein. Donc ils avaient des brouillons, des sortes de brouillons. Donc quand on fait un brouillon, il y a déjà la première écoute et on écrit sur le brouillon. Déjà là, il peut y avoir une petite erreur. Et après, du brouillon, on passe au manuscrit pour la rédaction définitive. Là, il peut encore y avoir une erreur. Donc vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles ces variantes ont pu être écrites. Soit donc des erreurs, soit du chanteur qui l'a lui-même transmis différemment, soit du scribe qui lui-même a fait une erreur ou alors a décidé de changer tel ou tel ornement. Voilà. Donc je vais reprendre la harpe. Bon, je suis pas très juste, mais oui, tu as tout à fait. Si tu lis la version du manuscrit du bas, là il descend pas, hein, il reste sur le sol. Mais ça va pas être un peu trop grave pour après? Parce que après ça... Trop longuement m'a duré cette peine. Ça, ça fait un peu... Mais tu veux là peut-être faire un ton plus moyen, en ré par exemple. Tout de suite, là, puisqu'on commence le travail, essaie de pas t'arrêter trop à la césure du milieu. Parce que les phrases, c'est comme dans Sol Soub Noubé, hein. Une phrase, ça va là, du début de la ligne à la fin de la ligne, tu vois. Donc, pas trop longtemps au milieu. Surtout que là, tu vois, quand tu chantes, Santeliana, qu'on ne sait se trahir, né des chevaux, né fausser. Tu vas jusqu'au, si possible. Tu peux respirer, mais pas trop longtemps, hein. La deuxième? Deuxième ligne, ouais. Peut-être mets-toi debout, peut-être ça serait mieux. Et n'hésite pas à avancer un petit peu plus. Mais tu l'as bien travaillé. T'as pas vu la deuxième strophe par hasard? Non, mais c'est bien. La deuxième strophe, tu l'as vu?
Non.
Bon. Alors, on refait une fois la première. Mais c'est très bien. Excuse-moi, j'ai fait une variation qui t'a pas aidé. Encore de trop longuement. Trop longuement, tu le sais, ça paye. Alors, encore une fois, pour lier les deux. Trop longuement m'a duré cette peine, Kaboul m'a fait endurer. Trop longuement m'a duré cette peine, Kaboul m'a fait endurer. Alors là c'est sol, hein, sol. Volet en cuore recouvré. En cuore, hein. Oui, ouais, toujours. Hein. Alors là, un petit peu la difficulté de cette version, c'est qu'entre les deux phrases, troisième et quatrième système, vous voyez qu'on va de ré à la, pour la troisième ligne, et de ré à sol, pour la quatrième ligne. Hein. Bon, c'est une variante, hein. Trop longuement m'a duré cette peine, qu'amour m'a fait endurer. Et non pour quand y a l'amour certain, vaurait en guerre recouvrer. Voilà. Mais bon, une fois qu'on a intégré, ça va tout seul, hein. Mais c'est bien. Alors moi, il faudrait au moins quelqu'un qui se lance pour faire la version du manuscrit Kangé.
C'est ce
qu'il
voulait faire.
Ah, vas-y. Alors, la petite haste vers le haut, voilà, c'est un do. Voilà. Encore, et si ne qui elle met sa main? Oh. c'est autre chose. Hein. C'est vrai, hein. Ça donne tout un autre caractère. Alors, peut-être on... Est-ce que quelqu'un d'autre veut réessayer quand même la version, puisque Philippe ou Alain, un des deux hommes, ne voulait pas l'essayer avec le fa dièse ? La version du haut ? Ah, mais attends, faut que je mette un do dièse. Hein ?
Je sais, les volontiers, mais celle-là, on va plutôt.
Ah, donc avec le... Bon, là, avec le fa bécard, alors. Le problème de ces chansons, hein, vous m'aurez entendu dire ça pendant deux jours, mais il faut déjà être capable de dire le texte bien, en étant très libre, et après de le chanter avec sa mélodie. Hein. On est toujours un petit peu contraint par ça.
Brigitte Laine, dans votre cours, vous faites une distinction très claire entre troubadour et trouvère. Alors, on connaît celle de la langue, bien entendu, mais c'est non plus pas exactement la même période temporelle. Alors,
Non, c'est vrai que les troubadours ont été les premiers poètes musiciens, donc desquels on a gardé trace grâce à des manuscrits. Ils étaient donc originaires tout d'abord d'Aquitaine, et puis après on a vu le mouvement s'étendre jusqu'au Languedoc, enfin sur toute l'ancienne Provence où on parlait la Languedoc. Et c'est vrai que dans le temps, les plus anciennes chansons profanes qu'on ait gardées sont celles des troubadours. Mais dès la deuxième partie du XIIe siècle, en fait, on voit le mouvement s'étendre vers le nord et des trouvères apparaître. Et en fait, les deux mouvements, des troubadours et des trouvères, ont continué jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on va dire, sachant que au début du XIIIe siècle avec la croisade des Albigeois. C'est vrai que le mouvement troubadouresque s'est vu quand même en difficulté, et beaucoup de troubadours sont partis soit en Espagne, soit en Italie, soit dans le nord de la France. Mais on a gardé des poèmes quand même pour en tout cas le dernier troubadour, Guirou Riquier, est mort dans la deuxième moitié du XIIIe siècle.
On l'appelle le dernier troubadour parce que
c'est la dernière figure dont on ait gardé trace dans des manuscrits. Hein. Bon, aujourd'hui, on a une vision qui est sans doute extrêmement parcellaire de tout ça, parce qu'on a gardé très très peu de manuscrits. Bon, c'est ce que j'ai dit pendant le stage pour les chansons de troubadour, manuscrits notés avec de la musique. Aujourd'hui, on en a que 4. Donc on peut imaginer, par rapport à l'importance du mouvement poétique que ça a été, c'est extrêmement peu. Énormément de répertoire s'est perdu. C'était tout d'abord une tradition orale. Certains personnages importants ont commandé la rédaction de chansonniers, et grâce à ça, on en a gardé trace aujourd'hui. Mais on a une infime partie de tous ces poèmes et toutes ces chansons qui ont été écrites pendant le Moyen-Âge.
4 livres, ça veut dire combien de pièces, combien de chansons ?
Le chiffre est autour de 300. Ça peut aller jusqu'à 350 si on compte des mélodies qui ont servi à plusieurs chansons en même temps. Enfin, c'est ce que j'expliquais aussi pendant le cours, ce qu'on appelle le principe du contrafactum, c'est-à-dire qu'une même mélodie, on chante sur l'air d'eux, une mélodie qui était très très bien considérée, qui était très appréciée, a pu servir à plusieurs chansons. Elle a pu être notée avec certaines variantes, donc parfois on comptabilise une mélodie plusieurs fois. Donc on arrive, selon une des musicologues, à 353 mélodies, voilà, avec toutes les variantes, sachant aussi qu'il y a des sources fragmentaires. Voilà, mais sinon, en général, on donne à peu près le chiffre de 300 chansons qui sont conservées.
Et on a des chances d'en trouver d'autres à l'avenir ?
Bon, alors ça, on peut être optimiste, mais je pense que maintenant, quand même aujourd'hui, il y a peu de chances. Bon, je sais que j'ai eu l'occasion de travailler sur un mystère, donc un autre sujet, mais un mystère de l'Assomption qui était représenté, enfin qui est toujours représenté à Elche en Espagne, et que à l'occasion d'un legs, donc du décès de quelqu'un et du dépouillement des archives de l'héritage, ils ont trouvé un manuscrit du mystère.
Donc une sorte de pièce de théâtre médiévale.
Voilà, c'est une tout à fait une représentation, on appelle une représentation sacrée, donc sur l'Assomption de la Vierge, mais entièrement chantée, et qui est toujours chantée aujourd'hui à Elche, dans la région d'Alicante, en Espagne. Et on a retrouvé donc un manuscrit qui datait du XVIIIe siècle. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tardif, mais quand même, c'est un manuscrit qui n'avait jamais été recensé par aucun musicologue. Bon, alors maintenant, un manuscrit du Moyen-Âge, parfois il arrive que dans une reliure de manuscrit, on découvre un feuillet isolé. Ça peut arriver. Un manuscrit entier, malheureusement, je crois qu'il faudrait être très optimiste.
Donc des sources difficiles à trouver, d'une part parce que c'était un art essentiellement oral, j'imagine, Brigitte oui. Laine, et puis aussi, tout de même c'est un art très raffiné que celui des poètes, chanteurs, troubadours, donc ils ont été notés en souvenir du raffinement de cet art.
Oui, alors en souvenir, non,
pour préserver un peu ça.
Voilà, au moment, bon, c'est un... Tous les troubadours ne sont pas d'origine noble, mais en tout cas, ce sont les cours seigneuriales du Midi de la France qui ont permis à ces poètes d'exister et de vivre et qui leur ont donné leur public. Donc ce mouvement s'est quand même déployé dans un milieu aristocratique. Donc ce sont des personnages de très haute importance qui ont pu commander la rédaction de ces chansons. Donc c'est grâce à eux qu'on les garde encore aujourd'hui. Mais il y a un côté qu'on a moins gardé, c'est le côté plus populaire aussi. Tous ces poètes musiciens, certains d'entre eux ont écrit aussi certainement des mélodies plus simples, plus dansantes, d'inspiration plus populaire, qui n'ont pas été gardées, qui sont restées de tradition orale et qu'on a perdu à tout jamais. Donc ce qu'on a, c'est quand même une version, en effet, la plus noble de tout ce mouvement de poètes musiciens. Mais c'est certainement pas représentatif de l'ensemble de la création de ces 12e et début 13e siècle.
Le programme que vous préparez, qui s'appelle Trobar et Joglar, oui. Il y a les deux mots de trouver, donc le mot troubadour vient un peu de l'improvisation, c'est aussi une des raisons, ou bien?
Trobar, et oui, ça veut dire trouver, c'est pas forcément improvisé, parce que ce sont des pièces extrêmement construites, surtout sur le plan de la métrique, de la versification. Il y a un énorme travail chez la plupart des... Enfin, chez tous les troubadours, il y a un travail de versification extrêmement poussé. Donc ce mot « trobar » vient de « trop », du mot latin « tropus », parce qu'au même moment, dans les milieux aquitains, dans les monastères aquitains, on voit fleurir les tropes qui sont des compositions, de nouvelles compositions, à la fois poétiques et musicales, qui se greffent sur le répertoire liturgique préexistant, le répertoire de l'office ou de la messe. Donc les tropes sont des nouveautés, des compositions nouvelles qui sont adjointes à la liturgie. Et on appelait ces premières poésies, une forme de ces premières poésies qui se présentaient de façon strophique, on les appelait des versus. C'était donc de nouvelles compositions, parce que les tropes, ces nouvelles inventions à partir de la liturgie, ont fini par prendre une telle importance qu'elles ont existé elles-mêmes à part entière. Et ces versus, ce n'est pas un hasard, si des troubadours, les premiers troubadours aquitains ont appelé leur première chanson des vers, de la même façon, donc on voit ce mot versus du latin se transformer en vers, à l'exception que les troubadours, eux, ont composé en occitan, et donc ils ont élevé cette langue en langue poétique quand ils ont commencé à composer.
Mais les jongleurs, alors le joglar, ça veut dire lancer des choses en l'air comme on imagine aujourd'hui,
oui,
ce sont des magiciens, des bateliers.
Oui, les jongleurs n'étaient pas des compositeurs. Donc les troubadours étaient ceux qui trouvaient, en effet, qui inventaient les mélodies et les poèmes, et les jongleurs étaient plutôt ceux qui pouvaient les accompagner, éventuellement les accompagner instrumentalement parlant, pourquoi pas aussi pour faire des récitations poétiques autour des chansons, ou pourquoi pas aussi faire de la jonglerie selon le mot moderne. Mais le jongleur est vraiment celui qui va transmettre la chanson. Souvent à la fin des chansons des troubadours, il y a ce qu'on appelle l'envoi, un petit texte à la fin de la chanson qui dit « Jongleur, j'envoie ma chanson grâce à toi à tel ou tel personnage ». Donc voilà, le poète demande à un personnage d'envoyer sa chanson, et ce personnage étant le jongleur. Donc il peut être, lui, l'interprète de ses chansons, si le compositeur lui-même ne les interprétait pas.
Ou alors il peut être celui qui joue une strophe instrumentale après la chanson.
Peut-être aussi, également, oui, certainement, des jongleurs pouvaient être instrumentistes, oui.
Parce que les mélodies qui sont connues, les quelques mélodies survivantes de ce répertoire des troubadours, elles sont uniquement vocales, et donc tout l'art d'accompagnement que l'on voit dans les miniatures, il faut le réinventer, il faut l'imaginer.
Il faut tout réinventer, ça a été aussi un grand débat entre musicologues, est-ce que ces chansons étaient chantées à cappella, ou est-ce que les instruments ont leur place dans la restitution des chansons. Alors, en effet, sur un manuscrit, on a uniquement le poème et la mélodie. On n'a absolument rien d'autre, aucun renseignement. Si, en revanche, on observe les manuscrits, on voit très souvent les compositeurs, les troubadours, représentés avec des instruments, ou alors un personnage qui les accompagne, qui a un instrument. Donc, l'instrument pouvait faire partie de l'interprétation des chansons. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer que ces chansons étaient accompagnées. Quand on est musicien, on s'aperçoit quand même qu'un soutien instrumental pour la déclamation d'un poème sur une mélodie, ça aide, ça apporte quand même une couleur extrêmement riche sur la chanson. Donc, bon, c'est vrai que moi je suis persuadée qu'on peut interpréter ces chansons avec des instruments, mais il ne faut pas dire qu'on doive les interpréter avec des instruments.
C'est une des parts les plus libres alors de votre travail d'interprète, comme avec l'ensemble à la Francesca où vous avez des instrumentistes qui sont là.
C'est vrai, c'est ce que vous disiez, on n'a absolument aucun renseignement sur comment accompagner ces mélodies. Donc ça, c'est tout un travail à faire à partir déjà du répertoire, bien connaître le répertoire, bien connaître la façon de fonctionner des mélodies, en fonction de la modalité dans laquelle elles se développent. Pour ma part, c'est très important aussi de connaître le répertoire liturgique de la même période, parce qu'on apprend énormément aussi sur cette modalité, donc sur ces échelles modales qu'on pouvait entendre dans les églises. Et à partir de ça, on essaie de faire un travail à partir des bourdons, donc de la note, la plus importante d'un mode, la finale du mode, et jouer sur plusieurs bourdons, éventuellement improviser des petits contrepoints en fonction des traités de l'époque qu'on a gardés sur la polyphonie, mais sachant que l'art des troubadours est vraiment monodique, donc il est à mon avis plus important de faire vivre les mélodies à partir de préludes ou de postludes, donc qui encadrent la chanson elle-même. Voilà, donc c'est à partir d'un système de bourdons et d'un système donc d'improvisation autour de ces lignes, on arrive à faire une restitution qui est il nous semble plausible.
Et vous-même, Brigitte Laine, vous jouez de la harpe. C'est un instrument qui est idéal pour accompagner un chant de troubadour.
Bah, la harpe est très représentée, c'est vrai, dans toute l'iconographie médiévale. Peut-être, c'est une querelle existante entre instrumentistes, la vielle est-elle plus représentée que la harpe ? Non, c'est vrai que la vielle semble quand même l'instrument royal pour toutes ces musiques. C'est l'instrument qu'on trouve le plus souvent représenté.
Avec un archet, donc une corde frottée.
Oui, avec un archet. Mais la harpe est quand même extrêmement présente. On voit notamment toute l'iconographie avec le roi David qui est représenté soit avec une harpe, soit avec un psaltérion. Mais elle est quand même extrêmement présente, c'est vrai. Oui. On va passer à la chanson suivante, enfin dans le dossier original, mais comme tout est dans le désordre maintenant, la chanson qui s'appelle « Autre chose à en amour ». Alors, cette chanson, elle est de Gilbert de Berneville. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de... Non, on n'a pas beaucoup de renseignements sur lui. Il est originaire aussi de la région d'Arras, hein, comme beaucoup de trouvères au XIIIe siècle. Il fut associé à partir de 1255 environ au cercle littéraire de cette ville, et de la cour de Brabant. On a gardé une trentaine de pièces qui lui sont attribuées. Donc on n'a pas beaucoup d'enseignements, on ne sait pas... Bon, s'appelant Gilbert de Berneville, peut-être qu'il faisait partie encore de l'aristocratie, mais on n'a pas d'autres renseignements. Alors, voilà, la première chose quand même qu'on observe, c'est que tout tourne autour de la tierce d'Orémy. Et puis pour la troisième ligne, mi fa sol pour la deuxième partie, hein, mais tout tourne vraiment autour de cette tierce. Elle est assez atypique, elle a une petite tessiture, hein, elle a quoi, une sixte mineure. Elle a une structure métrique aussi, pas aussi régulière. Il y a des heptasyllabes sur les cinq premiers vers. Et puis après, vous avez deux vers de cinq syllabes. Et après, il y a le refrain, qui est construit sur quatre, en fait, quatre petites unités. Pour valoir, doit avoir chacun. Pour valoir, non, doit avoir, on a wear, chacun bon amour, cinq, et sans mouvoir. Voilà, et le refrain, il se répète toujours le même. Hein. Alors, vous voyez que là, au niveau du maître, c'est assez différent entre les lignes. En revanche, toutes les strophes sont construites sur la même métrique. Hein. Alors, celle-ci, ce qu'on peut essayer, ce qui est intéressant, c'est de la faire avec un isone, parce que comme vous voyez, ça bouge très très peu. Si on fait un isone sur le do, c'est assez, ça marche assez bien. La mélodie, elle est très simple. Autre chose en a, autre chose en amour, bien la doué garde qu'il a. N'a pas failli à nous, tant que nous elle sera. Donc deux phrases identiques. Qui plus aime, plus mettra très tout son plaisir en bon devenir. Pour valoir, doit avoir chacun bon amour, sans mouvoir. Alors au niveau du mode, qu'est-ce que vous remarquez? C'est pareil que la version du manuscrit qu'en j'ai avec le fa dièse, donc là, mode de do, avec le si. Toute petite tessiture. Bon, c'est une petite chanson qui a pas de particularité énorme, mais elle est quand même, moi je trouve, très intéressante. Et surtout avec ce petit refrain, avec ces quatre petites parties. Pour le valoir. Et alors, on a arrêté de faire les comparaisons avec le grégorien d'ailleurs, mais je vous avais choisi une pièce pour celle-ci. Ah oui, la communion. Si vous prenez la feuille avec les pièces de chant grégorien, la toute première pièce. De fructua perum tuorum domine, satia.
quand même très proche de « Oh, de choses en amour !» Et alors après, « Et divinum et difficet, qui plus est ma plus maître, très tout son plaisir en bon devenir. » Vous voyez que vraiment, c'est extrêmement proche d'une pièce en mode de fa, hein, du répertoire grégorien, avec ses appuis sur le mi, donc le demi-ton sous la corde de la finale. Hein. Alors d'ailleurs, dans cette pièce-là, dans cette pièce de Fructu, vous avez justement la descente à la carte qu'on trouve extrêmement fréquemment. Si vous regardez les deux dernières phrases, ult exilaret faciem in oleo. Voilà, on est descendu à la carte et après on remonte. Et panis coronis confirmet por valuer. Vous voyez que c'est quand même, au niveau modal, c'est une parenté évidente. Hein. Bon, mais dans cette pièce-là, on ne descend pas à la carte sous la finale, hein, c'était dans la pièce d'avant. Alors, on essaye de la chanter. Est-ce que, s'il y a une candidate, moi je fais l'isone en un premier temps, pour essayer, pour voir la couleur que ça donne. Tu veux l'essayer? Tu veux la faire en quel ton? Parce que là, moi j'ai pas du tout, je ne sais pas en quel ton. Ça va, je ne sais pas ce que c'est, mais on ne cherche pas à savoir. Allez. Oh, autre chose en amour, bien la douée garder qu'il n'a pas failli en nous, sans que elle sera, qui plus aime, plus mettra, très tout son plaisir. Un peu perdu là. Alors, faut être bien clair là sur le. Si moi je fais l'isone, il faut que ton demi-ton en dessous il soit très très clair. Hein. Por valuer, parce que moi je te fais por valuer. Hein, donc, sois bien ferme. On refait juste la ligne du refrain. Ouais. Por valuer. Encore. Por va. Ouais, encore. Por valuer. Mais il faudrait que tu sois un petit peu plus forte si tu peux, parce que. Por valuer, tu es avouer, chacun bon amour, sans mauvais, ouais. Bon, il faut, ouais. Il faut que tu avances un peu, parce que sinon c'est un peu difficile, mais c'est bien, hein. Vous voyez que c'est intéressant, mais là il faudrait que je sois encore un peu moins fort, parce que tu chantes pas très fort, donc. Alors d'abord les femmes, on va faire une version les femmes avec la moitié d'isone et la moitié de voix. D'accord? Dans ce ton-là, je crois, parce que plus bas c'est un peu grave. Il faut quand même. Faudrait au moins 5 isones, quoi, en gros. Et on essaie d'avancer, hein. Oh, quelle chose! Oh, quelle chose! Ça pourrait marcher, mais il faudrait faire encore tout un travail sur le texte. Mais c'est pas mal du tout là. Alors vous sentez bien là, quand on arrive en bon devenir. Encore une fois, on a une petite suspension, hein, sur le ré Et tout de suite, pour valouer, hein, avant de revenir au dos. Donc, faut bien qu'on la, je trouve qu'il faut pas trop relâcher à ce moment-là, mais sentir bien qu'on continue jusqu'à Paul Valouet, hein. On refait une fois? Oui.
Comment se prononce chacun?
Chacun. Ah, on sait à quel endroit? Non, tu prononces pas la consonne finale, ni le S avant le C. Tu sais, on en a parlé hier, on dit qu'on se situe au milieu du 13e siècle, quand déjà, les consonnes s'estompent.
On dit chacun.
Chacun,
c'est
joli.
Non, fin, c'est où?
Fin,
oui, fin queuse. Mais là, on doit faire la liaison. J'ai oublié de la faire, je crois. Ouais, je ne l'ai pas faite tout à l'heure. Hein. Fin queuse, où elle sera. Ouais, n'a pas failli à nous. Ah oui, non, à honor, d'accord. Non, chacun. Chacun. Là, on se... Alors après, qui plus aime, plus mettre à trait tout son plaisir en bon devenir. Pour valoir, doit avoir chacun bon amour sans mauvais. D'accord? C'est, essayez de la chanter comme si vous la parliez, vraiment. Hein. Allez, encore une fois. Sur Do, au moment de la troisième ligne à la fin, quand je vous dis il y a une cadence en suspension, évidemment il y a la seconde aussi hein, dans ce qu'on chante, donc c'est pour ça qu'il faut bien la tenir avant de redescendre à l'unisson sur le Do, hein. Ben, c'est pas mal là, il y a eu un Si bémol à un moment par là. Oh, attends, reviens au moins sur la finale. Viens là, doué garde qu'il a. Ouais, t'as inventé, c'était ah, joli, mais il fallait que tu redescendes sur la finale. Ça, c'est la contrainte quand même. De... Ouais. Quand on fait des variations, sauf quand on veut vraiment, alors là, complètement changer la chanson. Encore une fois. Après, tu passes à la tierce supérieure, hein, mais là, tu es encore sur Do-Ré-Mi. Encore qui plus aime.
Qui plus
non, 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 qui, non, non, qui plus aime.
Qui plus aime, plus maintenant, très tous en plaisir en devenir. Pour le valoir.
Voilà. Bon. Mais bon, sur une chanson comme ça, là, je choisis de faire une version a cappella avec un isone. On peut très bien faire une version a cappella sans isone, hein. C'est tout à fait possible. Et sinon, c'est quand même bien quand c'est accompagné aussi. Hein. Celle-là, elle se prête vraiment bien à un accompagnement à la vielle. Ou à la vielle à roue, oui, pourquoi pas. Ou à l'organistrum. Mais tu sais, l'organistrum, il est associé à l'église. Hein. C'est après, quand de l'organistrum, on est passé à ce qu'on a appelé la chiffonie, que là, on s'en est servi beaucoup en musique hors profane, quoi, hors d'église. Et l'organistrum, c'est vraiment un instrument d'église. On ne le voit pas associé à la musique profane.
Là, moi, je le vois plutôt. À la vienne, ce serait quelle note? Ce serait un do et un sol.
Bah, tu peux la faire en mode de fa, en mode
non,
de...
Non, mais sur, si on joue par exemple là, en do...
Oui, tu, bah, il faut que tu...
Et en do, on rajoute... On met la do fondamentale et
puis la quinte. Bah, ce qui serait bien, c'est que tu puisses avoir un bourdon sur le do grave, par exemple. Et puis... Bah là, après, il faut essayer. Ça peut être intéressant d'avoir la carte au-dessus du bourdon. Ou alors la quinte au-dessus du bourdon. Là, il faut essayer. Ouais, il faut vraiment essayer les deux. Ça pourrait être intéressant d'avoir do, fa tout le temps. Parce que ça mettrait en valeur la carte augmentée sur le... Avec le si, mais bon, je sais pas, faut essayer, hein. Faudrait essayer.
Mais Brigitte, pourquoi qu'il faut tellement lutter pour ne pas tomber dans un rythme soit binaire, soit tergène. Si on veut le faire librement, c'est presque impossible. Il est tellement répétitif avec le motif, on tombe automatiquement dans un rythme. Ou bien,
librement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a cet appui sur le la troisième syllabe. Oh, et des choses en amour, bien là d'où est gardé qu'il a, n'a pas failli en nous le fin cœur où elle sera. Mais c'est pas vraiment rythmé. C'est parce que nous, on a des oreilles. Mais est-ce que vous l'entendez rythmé, là? Et là, tel que je le fais, vous entendez un rythme?
Non.
Tu veux dire avec, en gardant une carte tout le temps en dessous? D'accord. Mais ça fait grave. Hein. Alors, qui veut la... Oh, tu veux la faire? Bah, faites-la toutes les deux. Caroline, tu veux bien faire la voix? Et toi, tu fais le... On fait une tentative d'isone sur le fa, alors. C'est ça qui marche. Do, sol. Mais là, on a fait ça, do, sol. Mais avec la carte, ça marchait pas. Non, c'était trop... Mais ça marche. Comme quoi, là, on pourrait faire un accompagnement avec l'organistrum qui garde tout le temps... Hein?
À Gruyère, en journée, Brigitte Laine enseigne et le soir, elle chante.
Elle chante sous le micro d'Espace 2. C'était une heure musicale, Jean-Luc, au 30 août dernier, avec son ensemble à la Francesca. Voici encore quelques extraits de ce concert des troubadours et ménestrels du XIIe siècle.
Vous aimez l'ensemble à la Francesca de Brigitte Lenne. Vous aimez Brigitte Lenne. Autant de bonnes raisons de revenir demain dans Musique en mémoire. David Mestri, puisque nous retournerons à Gruyère, et toujours pour quelques aspects de ce cours de chant médiéval voué à cet art des troubadours.
Voué à cet art du XIIe siècle et l'époque de l'organistrum aussi qu'on retrouvera à la fin de cette série autour
j'espère
de l'atelier
qu'on s'est donné pour le
de musique de Gruyère.
Très bien.
Il n'est pas fini encore.
Non, mais évidemment pas. Merci beaucoup David Mestri. Cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson et la réalisation de Bruno Seriba. C'est une proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse, elle est plausible. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2. Elle se podcast aussi pour peu que l'envie vous en prenne. Et nous, c'est demain à 9h que nous retournerons à Gruyère pour quelques aspects de ce 7e atelier de musique ancienne. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Tenez pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.
Quand il ne va pas à la pêche, il écrit des concertos pour ses amis violonistes. C'est en ces termes que commence un très joli article du Figaro consacré à notre invité de la semaine, le compositeur français Éric Tanguy. On pourrait presque penser à une plaisanterie, mais pas du tout. S'il est aujourd'hui considéré comme l'un des compositeurs les plus talentueux de sa génération et souvent cité comme une référence de demain, Éric Tanguy n'en reste pas moins un artiste très humain, à la fois modeste et généreux, qui taquine autant les muses que le goujon. Éric Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous vous souvenez de cet article?
Oui, c'était en 96. C'était un article qui a précédé la création de mon concerto de violon par Philippe Aïche et l'Orchestre de Paris. Je me souviens très bien de cet article parce que on avait parlé longuement avec le journaliste. Et puis à l'extrême fin de l'entretien, il m'avait dit « Mais il n'y a pas quelque chose dans la vie qui vous intéresse, qui vous amuse en dehors de tout aspect artistique ?» Je dis « Bah si, bien sûr, j'adore aller à la pêche parce que pour moi, la pêche est vraiment le lieu du partage avec des copains. On attrape des poissons, on fait des petits barbecues et c'est très sympa. » Et paf, c'était devenu la une de son
De son article. Et justement, de cet article, j'ai extrait encore une autre citation que j'ai trouvée très intéressante parce que vous faites un parallèle entre le pêcheur à la ligne et le compositeur. Je vous cite, vous dites « J'ai remarqué que des pêcheurs installés au même endroit, à la même heure, attrapent chacun une espèce particulière de poisson. C'est comme en musique, des compositeurs du même âge et du même formation, sur un même sujet, gardent leur style personnel. » Alors, Éric Tanguy, c'est quoi votre style personnel? Comment est-ce que vous décririez votre langage musical?
Oh, alors là, c'est un exercice d'autoportrait, c'est difficile. Une musique qui est sonore, qui est très respectueuse des instrumentistes, qui demande quand même beaucoup des instrumentistes, c'est-à-dire qu'elle est à la fois virtuose et mélodique. Elle est pas tellement compliquée du point de vue de la rédaction. Et puis, elle est généralement relativement consonante, bien que parfois légèrement dissonante selon les choses que j'ai à exprimer.
Eh bien, il y a un petit peu de tout ça dans l'œuvre que nous allons écouter à l'instant. Il s'agit de votre deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. Une œuvre qu'on va écouter pratiquement en primeur parce qu'il vient de sortir en disque sous le label Naïve. C'est Anne Gastinel qui l'interprète. C'est ce fameux concerto pour violoncelle qu'a interprété Mstislav Rostropovitch.
Oui.
Et qu'Anne a repris pour vous, pour ce disque en tout
oui,
cas.
Oui, j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que l'origine de ce concerto, c'est Rostropovitch. C'est lui qui me l'a commandé. C'est lui qui l'a créé aux Flâneries musicales de Reims. Il l'a emmené en tournée aux États-Unis. Anne, depuis, l'a rejoué pas mal de fois, Anne Gastinel. Et à l'issue de cette collaboration avec Rostropovitch, qui était vraiment très chaleureuse, c'était fantastique. Donc Slava m'avait demandé de lui écrire une nouvelle partition. Et j'avais pensé lui faire un Gloria pour chœur et orchestre. Et bon, malheureusement, avant d'entamer l'écriture de cette œuvre, j'ai su qu'il était malade et qu'il pensait lui-même qu'il ne serait plus là pour la création du Gloria. J'ai donc écrit une pièce pour violoncelle et orchestre, une nouvelle qui s'appelle Inter Apache. C'est une phrase extraite du Gloria. Et donc c'est Anne Gastinel qui l'a créée en hommage à Rostropovitch. Donc Anne est de toutes les aventures musicales. C'est une, j'ai coutume de dire que c'est un peu mon alter ego, c'est comme mon double en musique. On est très amis, très liés depuis une quinzaine d'années. Et elle joue toute ma musique pour violoncelle.
C'est formidable.
C'est fantastique d'avoir une alliée pareille. Alors beaucoup de violoncellistes, dont certains qui sont très proches, comme Henri de Marquette, jouent plutôt telle pièce ou telle autre, etc. Anne, elle joue tout. Voilà.
Eh bien, on se réjouit de l'écouter. Vous avez choisi de nous faire entendre les deux derniers mouvements de ce concerto. Vous leur avez donné les titres très mystérieux et vifs. Est-ce que vous voulez en toucher deux mots ou on laisse les auditeurs découvrir?
On va laisser les auditeurs découvrir.